Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous souvenez que la semaine dernière, j'ai évoqué brièvement le projet de paix perpétuelle rédigé et publié par Emmanuel Kant en 1795. Avec lui, le défi cosmopolite passait de la tolérance religieuse à la question du droit. Il ne s'agissait plus seulement de fonder la coexistence religieuse sur la conscience individuelle et sur un idéal de réciprocité, mais d'assurer la paix entre les peuples et les nations. Il s'agissait d'unir les citoyens du monde malgré leur appartenance à des États différents. Kant, bien sûr, n'était pas le premier à proposer un plan pour assurer la paix perpétuelle. On peut même dire que c'est une question importante qui traverse tout le XVIIIe siècle. L'abbé de Saint-Pierre est peut-être le plus connu de ses précurseurs avec son projet pour rendre la paix perpétuelle publié pour la première fois en 1713. Il reposait sur le constat d'une crise définitive de la monarchie universelle, le même constat que nous avions vu chez Montesquieu, mais aussi, à la différence de celui-ci, sur une vision plus pessimiste du commerce comme force pacificatrice. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs l'abbé de Saint-Pierre, vous le savez sans doute, d'être considéré comme un doux rêveur, un utopiste, un grand faiseur de projets, disait de lui Saint-Simon, et ce n'était pas un compliment. Jean-Jacques Rousseau, à son tour, en 1761, publie un extrait du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. Un texte complexe à analyser, d'ailleurs je ne m'y risquerai pas trop, mais complexe pourquoi ? Parce qu'il est difficile, de bien discerner, de faire la part de ce qui relève de la pensée de Rousseau lui-même et de celle de l'abbé de Saint-Pierre, des nombreux manuscrits et ouvrages de l'abbé de Saint-Pierre que Louise Dupin avait confiés à Rousseau. Il reste que le texte a eu beaucoup de succès et il a contribué à susciter un regain d'intérêt pour la question de la paix universelle, enfin de la paix perpétuelle. Mais il faut remarquer justement, alors je dis universelle, pourquoi ? Parce que tous ces projets de paix se présentent comme, en principe, universels, couvrant, dit l'abbé de Saint-Pierre, tous les États de la Terre, c'est sa formule, tous les États de la Terre. Cosmopolitique, ajoute pour sa part Kant, qui aime bien inventer des mots compliqués. Mais dans les faits, aussi bien chez Saint-Pierre que chez Rousseau que chez Kant, en réalité, ces projets de paix concernent essentiellement l'Europe, les puissances européennes. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, le projet de l'abbé de Saint-Pierre s'appelle « Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe ». Alors, à vrai dire, il s'agit là d'un problème plus général du droit international au XVIIIe siècle, comme l'a bien montré Jennifer Pitts dans un livre « Boundaries of the International » publié en 2018. Et j'ouvre une parenthèse, j'en profite pour vous signaler que Jennifer Pitts donnera une conférence au Collège de France le 14 mai prochain sur un sujet un peu différent, mais qui concerne aussi de très près l'universalisme, puisqu'il s'agira de la question des débats sur l'abolition de l'esclavage, 18e siècle, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ce qu'on appelait le droit des gens au 18e siècle, par opposition aux lois civiles, le droit des gens réglait les relations entre les États, il n'était plus considéré comme limité à la chrétienté, comme ça avait été longtemps le cas, et donc il est désormais présenté comme un droit universel, fondé sur le droit naturel, valant pour toutes les nations, sans considération, par exemple, de religion. C'est pour ça qu'il n'est plus limité à la chrétienté. Et je vous donne, par exemple, citation du juriste suisse, du grand juriste suisse Emer de Vatel, qui est sans doute le plus important théoricien du droit des gens au XVIIIe siècle. Eh bien, dans son grand traité de 1758, il écrivait: la loi naturelle seule régit les traités des nations. La différence de religion y est absolument étrangère. Les peuples traitent ensemble en qualité d'hommes et non en qualité de chrétiens ou de musulmans. De même, ils n'hésitaient pas à utiliser le langage universaliste et cosmopolite du genre humain, terme que l'on retrouve très souvent sous sa plume, par exemple lorsqu'il évoque l'intérêt du genre humain, ou encore le bonheur ou le malheur du genre humain, ou encore la société universelle du genre humain, qu'il définit, je le cite, comme une institution de la nature elle-même, c'est-à-dire une conséquence nécessaire de la nature de l'homme. Donc, discours universel, discours du genre humain, mais en réalité, tous les exemples qu'il prend, enfin la plupart des exemples qu'il cite dans son grand traité du droit des gens sont essentiellement européens. Pas exclusivement, mais essentiellement. Et Vattel manifeste une profonde méfiance à l'égard des États musulmans et des puissances qui ne correspondent pas au modèle des États européens souverains, notamment les grands empires asiatiques. Alors ça ne veut pas dire que Vattel soit hypocrite ou que son universalisme soit une pure façade. En réalité, il est bien animé d'une ambition universaliste, une volonté d'universaliser le droit des gens, de l'élargir hors de l'Europe. Comme dit Jennifer Pitt, ce sont des moments universalistes dans le livre de Vattel. Mais ces moments universalistes restent trop limités, trop ambigus, trop peu critiques aussi à l'égard des relations que les Européens entretiennent avec les autres puissances. Au fond, cette question reste très secondaire pour Vattel, qui cherche avant tout à réguler le droit public européen dans le contexte de la guerre de 7 ans, qui est le contexte, le début de la guerre de 7 ans, qui est le contexte dans lequel il écrit et publie. Ce n'est qu'à la fin du siècle que cette contradiction est affrontée directement, soit par des auteurs qui souhaitent élargir le droit des gens à une échelle véritablement mondiale, soit par ceux, plus rares, qui proposent de réfléchir à l'articulation de systèmes juridiques hétérogènes. Le contexte de cette prise de conscience dans les années 1780-1790, eh bien, c'est notamment, principalement, l'impérialisme britannique en Inde, qui suscite de très fortes polémiques, et notamment avec le grand procès de Warren Hastings, qui était le dirigeant de l'East India Company et le premier gouverneur des Indes. C'est contre lui que Edmund Burke, dont on avait déjà parlé, brandit le droit des gens, que les Anglais appellent « the law of nations », à la fois un droit donc considéré comme à la fois naturel et universel, et auquel les Anglais, même en Inde, même dans leur rapport avec les principautés et les populations indiennes, doivent se soumettre. Alors le paradoxe ironique, et qui a été souvent soulevé, c'est que ce geste consistant à élargir le droit des gens à une échelle vraiment globale, et donc à le rendre véritablement universel, avait une visée critique à la fin du XVIIIe siècle, notamment à l'égard du colonialisme ou plus généralement du sentiment de supériorité des Européens, mais qu'il a eu au XIXe siècle l'effet inverse. Il a abouti à imposer au monde entier une conception des relations internationales fondée sur les normes européennes. C'est ce que l'on pourrait appeler, au fond, le piège de l'inclusion. Du moins en situation d'asymétrie. Ce paradoxe nous rappelle que le droit international est toujours un équilibre précaire entre un horizon universaliste et un système de hiérarchie et d'inégalité de pouvoir. Alors, je reviens au XVIIIe siècle et notamment au milieu du siècle, alors que le débat est encore plongé dans les ambiguïtés que je viens d'évoquer chez Vattel, ambiguïtés que l'on retrouve aussi dans le projet de paix de Rousseau, publié, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en 1761. Cette contradiction d'une paix perpétuelle à vocation universelle, mais limitée à l'Europe, eh bien, cette contradiction n'a pas échappé aux contemporains, et notamment à Voltaire, toujours à l'affût d'une bonne ou d'une mauvaise occasion de se moquer de Jean-Jacques, avec qui les relations s'étaient très fortement envenimées l'année précédente, en 1760. Aussi, Voltaire ne résiste-t-il pas au plaisir de réagir à la publication du projet de paix perpétuelle de Rousseau, par une de ces petites brochures ironiques dont il a le secret, qu'il appelait lui-même ses rogatons. Alors Voltaire, bien sûr, ne traite pas la question, vous vous en doutez, en juriste, mais sur un mode comique, apparemment superficiel au regard des enjeux, mais qui est peut-être en réalité plus profond qu'il n'y paraît. Voltaire, d'ailleurs, semblait tenir à ce texte. Il en a fait paraître plusieurs éditions la même année 1761, et il en a envoyé des exemplaires, c'est une toute petite brochure de 4 pages, donc il en a envoyé des exemplaires à la plupart de ses correspondants, comme l'a relevé Fabrice Brangly, qui en a donné l'édition critique dans le volume 51b des œuvres complètes de Voltaire. Le texte a même été repris, en 1761 toujours, dans le journal encyclopédique, ce qui lui a donné une plus grande diffusion encore, même si évidemment ce texte est un peu aujourd'hui oublié, en tout cas en dehors des spécialistes, c'est parti de cette multiplicité de petites productions éphémères de Voltaire. Donc il s'agit d'une brochure anonyme de 4 pages, oui anonyme parce que j'ai oublié de vous rappeler que Voltaire adorait publier anonymement, ou alors sous pseudonyme, ou alors sous le nom de ses adversaires, pour leur nuire. Alors, il avait toute une gamme comme ça, de publications diverses et variées. Ça m'a amené un jour à dire que si Voltaire venait aujourd'hui, il aurait sans doute toute une série de comptes anonymes et sous pseudonymes sur, vous savez, X anciennement Twitter, comme on dit. Je ne sais pas combien de temps on continuerait à dire comme ça, mais enfin, il polémiquerait sans cesse. Bref, cette brochure, publiée à Genève, chez l'éditeur Kramer, est intitulé « Rescrit de l'empereur de Chine ». Et je vais vous en lire le début pour vous donner un peu une idée de la tonalité. « Nous, l'empereur de la Chine, nous sommes fait représenter dans notre conseil d'État les 1001 brochures qu'on débite journellement dans le renommé village de Paris pour l'instruction de l'univers. Nous avons remarqué avec une satisfaction impériale qu'on imprime plus de pensées ou façons de penser ou expression sans pensée, dans ledit village situé sur le petit ruisseau de la Seine, contenant environ 500 000 plaisants, ou gens voulant l'être, que l'on ne fabrique de porcelaine dans notre bourg de Kingsin, sur le fleuve jaune, lequel bourg possède le double d'habitants, lesquels ne sont pas la moitié si plaisants que ceux de Paris. » Et alors Voltaire, donc, vous voyez, on est typiquement dans le ton voltairien, il continue d'ailleurs sur ce ton sarcastique. Je ne peux malheureusement pas tout vous lire, c'est dommage, ça nous aurait fait rire un peu, mais vous remarquez tout de même, je vais en lire un petit morceau quand même encore après, mais vous remarquez tout de suite que derrière les plaisanteries, il y a évidemment une critique plus sérieuse, celle de la place effective de Paris à l'échelle du globe et surtout vue de Chine. Comment peut-on être universaliste à Paris ? Ce village au bord d'un ruisseau, alors que le monde est si vaste. Aux brochures plaisantes mais futiles, Voltaire oppose le sérieux et la solidité de l'industrie chinoise, ces porcelaines qui suscitaient alors un grand engouement. Depuis que la demande européenne avait explosé au XVIIe siècle, par l'intermédiaire d'abord des marchands hollandais, puis désormais des marchands anglais et français, les Chinois s'étaient mis à fabriquer directement pour le marché européen. Le cœur de l'industrie de la porcelaine était la grande manufacture impériale de Jingzhen, que Voltaire appelle Qingzhen, selon la transcription approximative de l'époque, enfin, peut-être pas beaucoup plus approximative que ma propre prononciation, ça j'en ai bien conscience, mais en tout cas, c'est exactement de cela dont il s'agit, c'est-à-dire la grande manufacture de porcelaine, manufacture royale, enfin impériale, qui produisait traditionnellement et qui continuait à produire pour la cour impériale, mais qui était désormais environné de toute une série d'ateliers qui fabriquaient pour des tasses et des vases qui étaient ensuite exportés par Canton, puisque Canton était le seul port où les Européens avaient le droit de commercer. Et donc ici encore, la mondialisation commerciale, à bien des égards, stimule la prise de conscience cosmopolite. Et d'ailleurs, on peut lire ce texte aussi dans la continuité du texte des lettres philosophiques que nous avions commenté il y a 15 jours. Au traité entre souverains, toujours susceptibles de dégénérer en conflit, Voltaire oppose le commerce et la tolérance, incarnés ici par la Chine plutôt que par l'Angleterre. Par ailleurs, l'ironie est évidemment à double entendre, puisque ce texte parodique est lui-même une brochure plaisante, de plus, même si Voltaire, écrivant depuis Genève, ou plus exactement depuis Ferney, où il venait de s'installer, affecte une distance à l'égard de la vie parisienne. Alors, après quelques moqueries, dirigées explicitement cette fois contre Jean-Jacques, Voltaire en vient au cœur du sujet. C'est la suite. « Nous avons été sensiblement affligés de voir que dans le dit extrait rédigé par notre aimé Jean-Jacques, où l'on expose les moyens faciles de donner à l'Europe une paix perpétuelle, on avait oublié le reste de l'univers, qu'il faut toujours avoir en vue dans toutes les brochures. Nous avons connu que la monarchie de France, qui est la première des monarchies, l'anarchie d'Allemagne, qui est la première des anarchies, l'Espagne, l'Angleterre, la Pologne, la Suède, qui sont, suivant les historiens, chacun en son genre, la première puissance de l'univers, sont toutes requises d'accéder au traité de Jean-Jacques. Nous avons été édifiés de voir que notre chère cousine, l'impératrice de toute la Russie, était pareillement requise de fournir son contingent. Mais grande a été notre surprise impériale quand nous avons en vain cherché notre nom dans la liste. Nous avons jugé qu'étant si proches voisins de notre chère cousine, nous devions être nommés avec elle. Que le grand Turc, voisin de la Hongrie et de Naples, le roi de Perse, voisin du grand Turc, le grand Mogol, voisin du roi de Perse, ont pareillement les mêmes droits et que ce serait faire au Japon une injustice criante de l'oublier dans la Confédération générale. » Donc, vous voyez, Voltaire traite sur un mode humoristique, presque comme une plaisanterie bouffonne, ce qui est en train d'émerger comme une grande question: comment penser un ordre international qui ne soit pas limité aux puissances européennes? L'argument de Voltaire repose sur la contiguïté spatiale. Par une sorte de transitivité, l'extension des relations internationales, des relations diplomatiques et de la Confédération Pacifique doit s'étendre jusqu'au Japon et à la Chine. Elle n'a aucune raison de s'étendre aux frontières de l'Europe. À l'idée d'une spécificité européenne, sur laquelle insistait Rousseau plus encore que Saint-Pierre, eh bien Voltaire oppose l'idée d'un ordre international mondial, sorte de précurseur des Nations Unies. À l'argument de la continuité, de la contiguïté, Voltaire ajoute un autre argument qui est celui de la sphéricité de la Terre, de sa globalité. Son faux empereur de Chine propose en effet de construire un tunnel qui traverserait la Terre de part en part et qui permettrait de construire en son centre, donc au centre de la Terre, une ville en verre, où siégerait, dit-il, la diète de l'univers chargée de gérer les affaires internationales. Et en gros, le siège de l'ONU au centre de la Terre, on n'y avait pas pensé, ça ne vient pas d'un roman de science-fiction, non, c'est Voltaire, 1761. Évidemment, l'avantage, c'est que ce serait à équidistance de tous les pouvoirs. Le lieu de l'universel n'est plus situé en surplomb, depuis un point de vue spatial, comme dans de nombreuses fictions, par exemple dans Micromégas, vous vous en souvenez, publié 10 ans plus tôt, mais il est désormais souterrain, au centre de la Terre. Évidemment, l'intérêt de cette localisation, ajoute le rescrit de l'empereur de la Chine, eh bien, c'est que la diète recevrait continuellement la lumière du jour par un bout ou l'autre du tunnel. De sorte, écrit Voltaire, ou plutôt l'empereur, la conduite des plénipotentiaires sera toujours éclairée. Alors, vous voyez que les jeux de mots plus ou moins réussis sur les lumières, celui-là est pas mal, les jeux de mots sur les lumières ne datent pas d'hier. Et Voltaire termine d'ailleurs par une autre plaisanterie. Nos plénipotentiaires enjoindront à tous les souverains de n'avoir jamais aucune querelle, sous peine d'une brochure de Jean-Jacques pour la première fois et du banc de l'univers pour la seconde. Alors on savait rire au XVIIIe siècle, vous voyez, mais derrière les plaisanteries et les jeux de mots, une fois de plus, Voltaire soulevait une vraie question, et une question à laquelle il n'a cessé de revenir: quelle place accorder à la Chine, cet immense empire, fondé sur une civilisation millénaire, dans un universalisme éclairé et conséquent. Lecteur assidu des lettres des missionnaires jésuites, Voltaire était fasciné par la Chine, et notamment par l'ancienneté de sa culture et de son histoire, mais aussi par la figure de Confucius, en qui il voyait l'ancêtre et peut-être le modèle de tout philosophe rationaliste. Je le cite, c'est dans un autre texte, « Il ne parla qu'en sage et jamais en prophète », ce que Voltaire dit de Confucius, ce qui était évidemment pour lui le plus beau compliment. La grande force de la Chine, telle que la percevait Voltaire, c'était de n'avoir jamais connu le fanatisme et la superstition, d'avoir fondé son empire sur la raison, la morale et la tolérance. L'exercice théorique consistant à regarder l'Europe depuis la Chine pour stigmatiser le provincialisme et la folie européenne lui paraissait toujours salutaire. Et dans plusieurs textes, il y revient, par exemple, pour ironiser sur les Européens qui s'étonnent que Jules César ne soit pas plus connu des Chinois, alors qu'eux-mêmes seraient bien incapables de citer un seul empereur de Chine. La question de l'histoire n'était pas du tout anodine, elle était en fait, pour Voltaire, l'enjeu essentiel. Vous vous souvenez, j'avais cité lors de la première séance les critiques de Voltaire contre Bossuet, à qui il reprochait d'avoir oublié les trois quarts de l'univers dans une histoire universelle. Penser l'universel, pour Voltaire, c'est d'abord écrire l'histoire du monde à une échelle vraiment mondiale, en rompant avec la focalisation exclusive sur l'histoire chrétienne et donc européenne. Enfin, plutôt sur l'histoire biblique. Et c'est la tâche à laquelle il s'attelle dans son grand livre « L'essai sur les mœurs », son grand ouvrage historique qui s'ouvre par l'histoire des grandes civilisations asiatiques, notamment la Chine, l'Inde et le Japon. Le livre a eu une influence considérable sur l'écriture de l'histoire, non seulement en France, mais aussi en Écosse et en Allemagne, même si Voltaire a été aussi très fortement critiqué par les historiens de son époque pour son usage, disons, désinvolte, des sources et l'absence presque totale de références. Je dis pour les étudiants, ce n'est pas un modèle. Alors, j'ai déjà étudié assez longuement l'essai sur les mœurs dans un chapitre de l'héritage des Lumières, donc je vous y renvoie pour ne pas me répéter. Je me contente simplement de dire ceci. Le grand intérêt du livre aujourd'hui, et notamment pour une réflexion sur l'universel et l'universalisme, c'est qu'il est tiraillé entre deux gestes presque contradictoires. D'une part, je disais à l'instant, une mondialisation de l'histoire, véritablement ouverte au passé non-européen, et c'est cette ambition qui a permis de voir en Voltaire parfois un précurseur de l'histoire globale. Ainsi, Lucien Febvre pouvait écrire en 1954 « Ce fut un geste hardi que celui de Voltaire commençant son histoire des mœurs par la Chine ». Et il regrettait néanmoins que cette audace n'ait pas été suivie des faits, c'est-à-dire par la suite, alors qu'elle impliquait, disait-il, une révolution totale de conception. Comme si, par-delà l'histoire nationale et nationaliste du XIXe siècle, l'histoire contemporaine devait renouer avec l'ambition des Lumières de produire une histoire à l'échelle mondiale. Mais d'autre part, l'histoire que raconte Voltaire est essentiellement une histoire cumulative du progrès des sciences, des arts, du commerce et surtout des mœurs en Europe. Depuis la fin du Moyen Âge, grâce au rôle civilisateur des cours princières royales et au progrès du commerce, les mœurs européennes, explique Voltaire, se sont polissées, raffinées, civilisées pour aboutir à l'Europe du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, Voltaire est trop sarcastique, trop ironique pour écrire une histoire systématique des progrès de l'Europe. Il ne se prive pas d'en montrer les limites, mais néanmoins, c'est la signification ultime du livre, comprendre la dynamique inouïe de l'Europe moderne. Récit qui va être repris et systématisé par les écrivains écossais comme William Robertson. Ce récit forme la matrice de toutes les grandes histoires européennes que produisent les Lumières, comme l'avait montré, il y a maintenant déjà 25 ans, John Pocock, dans le deuxième volume de son livre monumental, son travail monumental en 6 volumes sur Edward Gibbon, intitulé « Barbarism and Religion », et j'en profite, je suis content de saluer ici la mémoire de ce grand historien qui nous a quittés le mois dernier, à l'âge de 99 ans. Cette tension entre une histoire universelle qui s'affranchit des limites de l'Europe chrétienne et une histoire eurocentrée dans laquelle, comme dit Voltaire, tout nous regarde, tout est fait pour nous, eh bien cette tension, elle a un nom, et ce nom, c'est civilisation. C'est un concept, mais qui est aussi un néologisme au XVIIIe siècle. C'est un mot nouveau qui s'emploie au singulier et non au pluriel. Hein, je le précise, il ne désigne pas des entités culturelles distinctes et cohérentes, hein, les civilisations, comme ce sera le cas bien plus tard dans la grammaire des civilisations de Fernand Braudel, ou a fortiori dans le choc des civilisations de Samuel Huntington. Non, au XVIIIe siècle, la civilisation désigne un processus historique de longue durée qui conduit des sociétés sauvages, où l'esprit humain est encore dans l'enfance, jusqu'aux sociétés policées dans lesquelles les individus deviennent enfin capables d'accéder aux vérités de la nature, celles du monde qui les entoure, grâce à la science, celles de leur propre nature humaine, grâce à la philosophie. En droit, et c'est un point essentiel, je dirais en principe, c'est un point essentiel, la civilisation est un processus universel. Pourquoi ? Eh bien parce que chaque peuple est amené à parcourir le processus historique qui mène donc de la vie sauvage à la vie civilisée et aux lumières de la raison. Mais dans les faits, l'histoire de l'Europe, depuis le XVIe siècle, jouit d'un statut spécifique. Elle sert de modèle grâce auquel on peut juger les progrès de la civilisation de chaque peuple. Alors, il est vrai que si Voltaire utilise beaucoup le verbe « civiliser », le mot « civilisation », en revanche, ne figure pas dans l'essai sur les mœurs, même si le thème de la civilisation est omniprésent. Le néologisme apparaît en français puis un peu plus tard, chez le marquis de Mirabeau, en 1756, dans son livre « L'ami des hommes », puis en anglais, quelques années plus tard, dans l'essai sur l'histoire de la société civile de l'Écossais Adam Ferguson. Et il va connaître alors un succès prodigieux, au point de devenir, à la fin du siècle, le maître mot, non seulement du langage historique, mais aussi du discours politique, avant de triompher dans l'historiographie libérale de la première moitié du XIXe siècle, notamment chez Guizot, vous le savez, qui écrit en 1828 son Histoire de la civilisation en Europe. Hein, l'idée de maître mot de la civilisation comme véritablement maître mot du discours historique de la fin du XVIIIe siècle, hein, je l'emprunte à Bertrand Binoche. Au XIXe siècle, la notion de civilisation finit alors par perdre son horizon universaliste et la tension qui était inhérente en devenant une histoire de la civilisation en Europe. Et il faudra attendre l'anthropologie du XXe siècle pour qu'elle soit pluralisée, on parlera alors des civilisations, et que le terme retrouve, mais au prix de nouvelles contradictions, une signification globale. Au XVIIIe siècle, la question essentielle que pose la pensée historique des Lumières est celle de l'élargissement de la civilisation à l'échelle du globe. Donc on se retrouve au cœur de cette tension. Comment s'assurer que la civilisation devienne véritablement universelle et que toutes les sociétés du monde accèdent à ce mode de vie jugé conforme à la raison? Comment les peuples sauvages et barbares deviendront-ils civilisés et éclairés? La plupart des philosophes rejettent l'imposition violente des mœurs européennes sous la forme de la colonisation. La civilisation, pensent-ils, ne peut pas s'imposer par la contrainte. Rappelez-vous, hein, du discours du vieillard tahitien dans le supplément Voyage de Bougainville. Par conséquent, comment faire pour que la civilisation devienne vraiment universelle? Eh bien, il privilégie deux modèles, celui d'un développement autochtone à travers des réformes politiques autoritaires. Il y a un modèle pour ça dans l'Europe du XVIIIe siècle, c'est la Russie de Pierre le Grand. Et puis, deuxième modèle, c'est celui du commerce, dans son double sens d'échange marchand et intellectuel. Le commerce doit permettre une transformation sociale des conditions de vie qui rend la liberté désirable et favorise l'autonomie des individus. L'Europe sert ici de modèle qui doit susciter admiration et émulation. C'est la colonisation par l'exemple, douce et pacifique, dont rêvent la plupart des philosophes des Lumières. Par exemple, dans l'histoire philosophique des deux Indes, ce best-seller des Européens des années 1770-1790, publié par l'abbé Raynal, mais véritable œuvre collective, eh bien, l'histoire philosophique des deux Indes est très révélatrice de cette tension. On y trouve à la fois des critiques virulentes du colonialisme européen, et notamment du colonialisme ibérique, et j'y reviendrai la semaine prochaine, mais on y trouve aussi des éloges dithyrambiques de la civilisation européenne et du commerce. La grande idée du livre, c'est que la découverte de l'Amérique, puis les expéditions des Européens en Asie, ont ouvert une ère nouvelle dans l'histoire du monde, celle d'une interdépendance accrue qui a profondément bouleversé l'économie, la politique et la culture, ce que nous appelons aujourd'hui mondialisation. Alors, dire bon, mondialisation, ça y est, tout de suite, l'anachronisme, bon. Ben, écoutons plutôt. Ce sont les premiers mots de l'histoire philosophique des deux Indes, donc première édition 1770, troisième édition 1780, très, très augmentée, et un livre absolument essentiel pour comprendre la fin, le débat politique et intellectuel de la fin de l'Ancien Régime. Donc, je vous lis les premiers mots du livre. Il n'y a point eu d'événement aussi intéressant pour l'espèce humaine en général et pour les peuples de l'Europe en particulier que la découverte du Nouveau Monde et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance. Alors a commencé une révolution dans le commerce, dans la puissance des nations, dans les mœurs, l'industrie et le gouvernement de tous les peuples. C'est à ce moment que les hommes des contrées les plus éloignées se sont rapprochés par de nouveaux rapports et de nouveaux besoins. Les productions des climats placés sous l'équateur se consomment sous les climats voisins du pôle. L'industrie du Nord est transportée au Sud. Je relis. L'industrie du Nord est transportée au Sud. Les étoffes de l'Orient sont devenues le luxe des Occidentaux. Et partout, les hommes ont fait un échange mutuel de leurs opinions, de leurs lois, de leurs usages, de leurs remèdes, de leurs vertus et de leurs vices. Tout est changé et tout doit changer encore. Bref, la mondialisation, une histoire sans fin, ou plutôt la conscience historique d'un bouleversement inscrit dans un processus historique qui a un commencement, aux yeux des hommes des Lumières, la fin du XVe siècle. Voltaire ne disait pas autre chose dans ses remarques sur l'histoire 30 ans plus tôt, en évoquant la rupture, là encore, de la fin du XVe siècle, à l'aube de la modernité, au moment, disait-il, où l'histoire commence à devenir véritablement intéressante. C'est ces mots. Il disait ceci, un nouveau système de politique s'établit, on fait avec le secours de la boussole le tour de l'Afrique et on commerce avec la Chine plus aisément que de Paris à Madrid, toujours le commerce de la Chine. L'Amérique est découverte, on subjugue un nouveau monde et le nôtre est presque tout changé. Désormais, la question est devenue centrale dans la pensée européenne des années 1770-1780. Elle accompagne une prise en compte massive des nouveaux impératifs de la mondialisation, conséquence de la guerre de 7 ans, cette première guerre mondiale, qui a bouleversé les équilibres impériaux. Ce sont d'abord les milieux marchands et politiques qui portent cette interrogation, et je vous rappelle que ce sont eux qui ont commandé à l'abbé Raynal l'histoire philosophique des deux Indes. Puis, les écrivains et les philosophes et les économistes s'en sont saisis, à commencer par Diderot qui élargit brutalement son horizon géographique dans les années 1770, durant lesquelles il rédige le supplément au voyage de Bougainville, mais contribue aussi massivement aux éditions successives de l'histoire philosophique des deux Indes. Alors, chez les chercheurs, et notamment les spécialistes de Diderot, il y a une sorte de lieu commun qui consiste à penser que Diderot a rédigé les parties les plus radicales, les plus anticolonialistes. Alors, ce qui n'est pas contestable, mais on trouve aussi, sous sa plume, des passages beaucoup plus modérés ou plus ambigus, et c'est peut-être ceux qui sont les plus intéressants. Ainsi, un chapitre qu'il a entièrement rédigé à la fin du livre 4 déploie le programme de colonisation modérée et éclairée que les Français sont invités à suivre en Inde pour restaurer leur puissance après les désastres de la guerre de 7 ans. Il s'agirait d'aider les populations à se révolter contre les Anglais, et cela permettrait aux Français de devenir, je cite Diderot, les libérateurs de l'Indostan et, je cite encore, l'idole des princes et des peuples de l'Asie. Alors, à condition, bien sûr, de réfréner leurs ambitions économiques, d'agir avec justice, sans exercer de contraintes trop directes. Je cite encore, un peuple sage. Donc, il s'agit, je vous rappelle, des Français appelés à remplacer les Anglais. Un peuple sage ne se permettra aucun attentat, ni sur la propriété, ni sur la liberté. Il respectera le lien conjugal. Il se conformera aux usages. Il attendra du temps, le changement dans les mœurs. S'il ne fléchit pas le genou devant les dieux du pays, il se gardera bien d'en briser les autels. Il faut qu'il tombe de vétusté. Alors, à ces conditions, pense Diderot, le commerce des Français sera étendu et florissant. Alors, vous voyez qu'il y a deux manières, hein, on voit bien, il y a deux manières de lire un passage pareil. On peut y voir un programme humaniste de tolérance et de respect, bien éloigné de la politique coloniale brutale de l'East Indian Company de la même époque. Et, à vrai dire, on aimerait bien que la politique française en Asie et en Afrique ait toujours agi avec autant de sagesse. Respect des mœurs et des coutumes, respect de la liberté de la propriété et même des religions locales. Mais on peut aussi considérer que Diderot a une vision singulièrement ethnocentrique et paternaliste des choses. À ses yeux, il ne fait aucun doute que les habitants accueilleront à bras ouverts ces nouveaux libérateurs et que le temps conduira nécessairement à la disparition des religions locales et au changement des mœurs sur le modèle européen. La civilisation, c'est-à-dire l'alignement sur le modèle européen, est inéluctable. L'imposer par la force serait donc un contresens, à la fois une injustice et une mauvaise politique. Elle ne peut que susciter la colère et la révolte, et donc, au final, la ruine du commerce. Mieux vaut donner l'exemple, montrer les bienfaits de la raison, alors les habitants finiront par abandonner après quelque temps, leurs vieilles coutumes et leurs religions traditionnelles pour venir commercer de leur plein gré avec ces nouveaux venus devenus leurs idoles. À la fin du siècle, cet imaginaire devient encore plus puissant et, à vrai dire, encore plus crédible. La Révolution américaine, puis la Révolution française, semblent indiquer que l'Europe et l'Amérique du Nord ont atteint une nouvelle étape de la civilisation et du progrès des Lumières, qu'il s'agit désormais de propager dans le monde entier. Prenons l'exemple de Condorcet, qui rédige en 1794, sous la Terreur, alors même qu'il est recherché et se cache, son fameux tableau des progrès de l'esprit humain. Le tableau est la forme achevée, en quelque sorte, de ce récit des progrès de la civilisation, à la fois universelle en droit et européenne dans les faits, ouvert sur la perfectibilité, plutôt guidé par la perfectibilité de l'espèce humaine. On réduit souvent le tableau à l'esquisse. Le seul texte achevé, publié en 1795 après la mort de Condorcet. Mais le projet était beaucoup plus vaste et nous en avons d'ailleurs désormais une bien meilleure vue grâce à l'édition monumentale publié en 2004 sous l'égide de Pierre Crépel et de Jean-Pierre Chandler aux éditions de l'INED. Et on y trouve notamment un des fragments rédigés par Condorcet pour son grand projet et qui s'appelle « La propagation des lumières sur le globe ». Condorcet assure que le chemin vers la civilisation passe par l'imitation des peuples les plus éclairés. Ainsi, aucun peuple ne restera à l'écart du progrès universel et de la liberté humaine. Donc, universalisme, tout le monde va accéder à la liberté et à la raison et aux lumières, mais sur le modèle des révolutions américaines et françaises. Je cite un peu longuement, « Bientôt, Bientôt, la liberté, s'élançant avec elle des ailes assurées que la France et l'Amérique lui ont offertes, subjuguera tous les peuples dont les yeux enfin dessillés ne pourront plus les méconnaître. Alors, fin de la citation. Il est difficile, je crois, de ne pas être sensible à l'ambiguïté ici du mot « subjuguer », qui désigne à la fois une fascination intellectuelle et morale, une sorte de puissance irrésistible du modèle occidental et révolutionnaire, mais qui peut aussi évoquer une forme de domination. Je ne sais pas si ça fait écho, mais il y a 5 minutes, j'ai cité un texte de Voltaire dans lequel il parle de la découverte et de la conquête de l'Amérique, et il dit « notre monde a subjugué un monde nouveau ». Donc, cette subjuguer, c'est dans les deux sens. Un peu comme si la menace d'un impérialisme de la liberté hantait souterrainement ce grand manifeste du progrès des Lumières qui est le tableau des progrès de l'esprit humain. Alors, gardons en tête, si vous le voulez bien, cette tension entre universalisme et impérialisme de la liberté. Nous la retrouverons dans quelques séances lorsque nous parlerons de la Révolution française. Retenons pour l'instant que les Lumières sont à la fois inscrites dans la nature de l'homme et qu'elles sont en même temps le résultat d'une histoire. L'universel n'est donc pas universellement distribué. Mais cet écart sur la route de l'émancipation n'oppose pas seulement les Européens au reste du monde. À l'échelle de l'Europe elle-même, je voudrais y insister un petit peu, à l'échelle de l'Europe elle-même, cette tension, cet écart, dessine des lignes de fracture. Il existe en effet une sorte de carte mentale, une géographie intellectuelle qui oppose l'Europe occidentale, déjà en voie de civilisation, notamment la France, l'Angleterre, l'Allemagne, à une Europe orientale, encore largement barbare, aux yeux des Européens du XVIIIe siècle, enfin des Français, des Anglais du XVIIIe siècle, une Europe à peine sortie du servage, de l'autocratie et de la superstition. C'est alors, dans ces années, cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, et autour de la notion de civilisation, que s'invente l'opposition entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Pensée désormais comme une frontière à la fois géographique et historique, au sens où l'Europe orientale est considérée comme un espace encore sauvage, qui reste à développer, à civiliser, ainsi que l'a montré Larry Rolfe. Il ne s'agit pas ici uniquement de considérations théoriques. Elles sont mises au service de véritables entreprises d'exploration savante vers l'Est, et notamment là où l'Europe devient l'Asie, en Sibérie. Le Français Chape d'Autéroche organise en 1761 un long voyage dont il tire une publication, 7 ans plus tard, 1768, une publication qui rend Catherine II, l'impératrice de Russie, totalement furieuse, car elle considère que l'Empire russe n'y est pas montré sous un jour très favorable. Au XVIIIe siècle, déjà, les souverains russes étaient un peu susceptibles. Disons que l'autodérision n'est pas leur qualité principale. Voilà. Mais il est vrai, à sa décharge, que Chape écrivait des choses comme celle-ci. Par exemple, « Les maladies vénériennes sont si répandues dans la Sibérie et la Tartarie septentrionale qu'il est à craindre que par la suite des temps, elles n'y détruisent totalement l'espèce humaine. » Un peu rude. Alors, un voyage dans les terres lointaines, dans les années 1760, pour observer, parce que c'était l'objectif de Chape d'Autéroche, pour observer le transit de Vénus, et qui débouche sur des considérations ethnographiques, y compris sur les maladies vénériennes. Je ne vous rappelle rien ? Eh oui, Tahiti, j'entends là-bas. Eh oui, Tahiti, c'est aujourd'hui on fait un peu interactif. Donc, Tahiti, et oui, parce que au même moment, c'est exactement les années 1760, c'est exactement au même moment que Bougainville et Cook explorent le Pacifique, eux aussi confrontés à des peuples qu'ils perçoivent comme non encore civilisés. Vous vous souvenez peut-être que le troisième voyage avait pour but non seulement de ramener maille, mais aussi de développer l'élevage et l'agriculture en Polynésie pour accélérer, comme disait Forster, les progrès de la civilisation. Or, parmi les marins qui voyagèrent avec Cook lors de ce troisième voyage et qui assistèrent donc à sa mort à Hawaï en 1779, eh bien, il y avait un jeune Américain, John Ledyard, né 25 ans plus tôt dans le Connecticut. Et donc, premier Américain, en fait, à avoir jamais mis les pieds à Hawaï. Eh bien, quelques années plus tard, Ledyard, ayant pris goût aux explorations, s'engagea dans un ambitieux projet qui visait à traverser l'Europe entièrement à pied, de l'ouest à l'est, de Paris à Moscou, puis de poursuivre à travers la Sibérie, de traverser le détroit de Bering, et ensuite de traverser toute l'Amérique, cette fois donc d'ouest en est, du Pacifique à l'Atlantique. Ce projet, qui reçut le soutien de Thomas Jefferson, qui était alors l'ambassadeur des États-Unis à Paris, reposait sur ce que Ledyard appelait une géographie philosophique, c'est-à-dire une vision de l'espace mondial marquée par une gradation de civilisation. Le terme, nous l'avons vu, était encore récent, mais comme l'a noté Larry Wolff, qui a étudié ses carnets, c'est la référence ici, eh bien, Ledyard utilise abondamment le terme de civilisation. À ses yeux, c'est le critère qui lui permet de mesurer la distance qui sépare l'Europe orientale, dont les habitants sont encore largement sauvages, à l'Europe de l'Ouest, caractérisée par le raffinement des mœurs. Ledyard part donc de Paris en 1787, puis va à Saint-Pétersbourg, à Moscou, et jusqu'à Yakoutsk, en Sibérie orientale, mais il est finalement arrêté par les autorités russes et expulsé à l'ouest. Il est vrai que même Jefferson semblait assez narquois à l'égard de son projet. Enfin, Ledyard lui envoyait des lettres enflammées, « mon cher ami », et Jefferson lui écrivait « J'ai reçu récemment une lettre de Ledyard envoyée de Saint-Pétersbourg. Il n'a plus à lui que deux chemises, encore moins de shillings. Pourtant, il reste déterminé à obtenir la palme du plus grand déambulateur de la Terre. Il dit qu'à cause du manque d'argent, il se voit expulsé de place en place à coups de pied, et c'est ainsi qu'à force de coups de pied, il espère faire le tour du globe. » Alors, on rigole, mais remarquons que l'échec de ce voyage ne l'a pas totalement dégoûté des explorations, puisque à peine rentré, il s'embarque pour l'Égypte, avec le projet cette fois de parcourir l'Afrique, mais malheureusement, il meurt au Caire en 1789. Une des ambiguïtés, pour être plus sérieux, une des ambiguïtés de la géographie philosophique de Ledyard, c'est qu'elle hésite, comme presque toute l'anthropologie naissante de son temps, entre deux tentations presque opposées. La première naturalise les différences. Elle les rabat sur des distinctions ethniques et même raciales, qui expliquent l'écart entre les mœurs de l'Europe occidentale et celles du reste du monde. En traversant la Sibérie, il note par exemple « Ma remarque générale est que dans ces régions, la plus grande partie de l'humanité est inculte en comparaison avec la civilisation européenne et que les habitants de cette partie de l'humanité sont de couleur plus foncée que les autres, à savoir les Européens. Il n'existe pas de sauvages blancs et peu de gens incivilisés qui soient bruns, qui ne soient bruns ou noirs. » Alors, vous voyez, c'est le moment où l'universalisme historique des Lumières bascule dans son contraire à moins que ce soit dans son ultime vérité, c'est-à-dire une vision raciste des différences au sein de l'humanité qui sont renvoyées à une hiérarchie raciale, à une identification entre blancheur et civilisation, entre sauvagerie et peau foncée. Toutefois, pour ne pas quitter Ledyard sur cette note un peu infamante, toutefois, il y a dans tous ses carnets de voyage une deuxième tentation qui est à l'œuvre et qui, elle, interprète les mêmes différences, cette fois sur un plan historique, comme des étapes différentes sur la longue marche qui mène à la civilisation. Par exemple, au moment de situer la barrière entre les mœurs européennes et asiatiques, qu'il place entre l'Allemagne et la Pologne, il évoque les funestes conquêtes de Gengis Khan, donc les conquêtes de l'Empire moghol, et il considère que ce sont ces conquêtes qui ont retardé le processus de civilisation en Europe orientale. Processus qui aurait dû les mener vers un état de société qui est le seul digne de l'humanité. Vous voyez ce vocabulaire, par contre, de l'humanité, de l'universalisme qui revient. Cette géographie philosophique était aussi une géographie politique. Au sein même de l'Europe occidentale, les auteurs, notamment les auteurs français, tendaient volontiers à s'imaginer aux avant-postes de la civilisation. Leur dédain à l'égard du monde ibérique est assez connu. L'article Espagne de l'encyclopédie méthodique, en 1782, était une véritable charge contre la décadence espagnole et provoqua une controverse intellectuelle et un scandale diplomatique. Mais c'est surtout la rivalité avec l'Angleterre durant la guerre de 7 ans, et notamment dans le monde colonial, en Inde et en Amérique du Nord, qui a suscité un nouveau langage patriotique culminant dans l'opposition entre la France civilisée et l'Angleterre barbare, voire même sauvage, comme dans le roman de Robert Martin Le Suire, Les Sauvages de l'Europe, publié en 1760 et qui était une satire de l'Angleterre. Toute l'originalité du patriotisme français au XVIIIe siècle, enfin dans cette, surtout dans ces années 1760-70, comme l'a montré David Bell, est de se présenter, ou plutôt de s'idéaliser, évidemment, comme un patriotisme non chauvin, un patriotisme universaliste, en quelque sorte, destiné à guider l'Europe et le monde sur la voie de la civilisation. L'Europe française est un mythe, mais un mythe qui s'est construit au XVIIIe siècle, visant à faire de l'homme du monde parisien la figure même de l'homme universel. Un des auteurs qui a le plus contribué à diffuser ce mythe est un polygraphe, aujourd'hui connu uniquement des spécialistes, mais qui a énormément écrit au XVIIIe siècle, qui s'appelait Louis-Antoine Caraccioli, et qui a écrit notamment, parmi son œuvre pléthorique, il a écrit notamment ce livre « L'Europe française », dans laquelle il reprend, en la radicalisant, le récit d'un progrès rapide et cumulatif des mœurs et du savoir. Il écrit par exemple « Il y a une si grande disparité entre les Européens de 1600 et ceux de 1750 qu'on a peine à le concevoir. Les années qui se trouvent entre ces deux époques ne forment qu'un siècle. Et pourtant, d'un côté, c'est le chaos, de l'autre, un monde policé. Ainsi, la plus vive lumière succède chaque jour aux plus épaisses ténèbres. » Alors, il est vrai que, à ses yeux, la situation antérieure n'était pas glorieuse, même à la Renaissance. Écoutez plutôt, « Mes idées se rembrunissent, je l'avoue, quand je vois le XVIe siècle s'annoncer dans l'univers avec un accoutrement bizarre, un air farouche, une parole pesante et sans aucun goût. » Bon, ça c'est pour mes collègues sixièmistes. Ce qui intéresse tout particulièrement Caraccioli, c'est de montrer que la révolution qu'a connue l'Europe depuis le milieu du XVIIe siècle, selon lui, s'est faite essentiellement sous l'égide de la France. Je le cite encore, « Il n'était pas facile d'ébranler l'Europe, de la réformer et surtout de lui donner des impulsions françaises. » Car c'est là le fin mot de l'histoire. Le grand mouvement qui a bouleversé l'Europe est entièrement venu de Paris. La civilisation est une francisation, un processus par lequel les mœurs françaises se sont diffusées en Europe, en imposant la politesse, les sciences et les arts, grâce bien sûr au règne de Louis XIV, au faste de sa cour, mais aussi au prestige des écrivains et des artistes français. Si bien que, au sein de cette Europe désormais civilisée, la France bénéficie d'une prépondérance incontestable. Je cite, « On reconnut toujours une nation dominante qu'on s'efforce d'imiter. Jadis, tout était romain. Aujourd'hui, tout est français. » Et cette comparaison va devenir un lieu commun. Paris est la nouvelle Rome, le nouvel empire culturel, la nouvelle figure d'une universalité à la fois culturelle et politique destinée à guider l'Europe et le monde. Ce discours a parfois été pris au premier degré par les historiens qui ont brodé à loisir sur cette histoire d'une Europe française, à commencer par l'historien de l'art Louis Réaud, qui publia en 1938 « L'Europe française au siècle des Lumières », dans lequel le rayonnement intellectuel et culturel de la France apparaissait comme une évidence. Et vous voyez qu'il reprenait d'ailleurs le titre de Caraccioli, « L'Europe française ». Mais en réalité, le livre de Caraccioli n'était que l'expression caricaturale d'un discours idéologique, celui de la monarchie française, qui n'était pas seulement théorique, mais qui soutenait une politique culturelle, comme le montre, par exemple, l'histoire des troupes théâtrales françaises en Europe au XVIIIe siècle, étudiée par Raoul Markowitz. Par exemple, je prends juste un exemple, en 1757, lorsque les armées françaises du maréchal de Richelieu occupent Hanovre, eh bien, elles utilisent la troupe de comédiens français qui résidait de façon permanente à cette cour pour donner des représentations à la gloire de la galanterie française et des modes parisiennes. Le sous-texte était extrêmement lisible et compréhensible par tous, c'était celui d'un potentiel de diffusion des mœurs françaises en Europe, une domination douce sur le modèle de l'amour, comme si la langue et le théâtre français devaient permettre de franciser toutes les nations européennes. Et je dis franciser parce que le terme, qui lui aussi est un néologisme, a d'abord été employé dans un contexte colonial, et notamment en Nouvelle-France, comme l'a montré notamment l'historien Gilles Avard, puis il a commencé à être utilisé dans le contexte européen, exactement dans ces années 1750-60, et on le trouve, par exemple, chez Caraccioli. Franciser et civiliser, qu'il s'agisse des sauvages d'Amérique du Nord ou des Européens, c'est tout un. Alors, attention tout de même, il ne faut pas trop durcir l'idée d'une politique culturelle appuyée sur un programme idéologique. Et ça, pour fixer un peu les idées, mais la France du XVIIIe siècle n'est pas les États-Unis du soft power du XXe siècle. Il ne s'agit pas du tout d'une politique systématique, cohérente, suivie, plutôt d'une série d'actions auxquelles un langage commun, celui de la civilisation, donne son sens. Surtout, sa force tient au fait qu'il est partagé et relayé par une grande partie des élites aristocratiques et mondaines européennes qui cherchent à copier le modèle curial français, perçu à la fois comme un idéal politique et, c'est important, comme une source de distinction sociale. Ce sont ces élites qui, tout au long du siècle, font venir des troupes de comédiens français, font apprendre le français à leurs enfants, viennent séjourner à Paris, cette ville dans laquelle ils voient la capitale des Lumières et du goût, même s'ils sont parfois déçus une fois sur place. On est toujours déçus, c'est le principe. L'identification de la France et de la civilisation est à la fois un discours patriotique français et le langage des élites curiales et mondaines européennes dans leur souci de distinction sociale. En France aussi, le langage de la civilisation est d'ailleurs un discours de la frontière intérieure et de la distinction sociale. Notamment, y compris plutôt aux yeux des philosophes qui, se désolant de constater que si les Lumières ont fait de grands progrès parmi les élites, le peuple, en revanche, reste la proie des préjugés et du superstition. Et d'ailleurs, c'est même ce qui le définit comme, dans le vocabulaire du XVIIIe siècle, comme populace ou comme multitude. Eh bien, ils se mettent à réfléchir hein, à la différence, à penser la contradiction entre une égale capacité de tous à l'autonomie intellectuelle et qui est le principe universel, et des jugements populaires souvent inconséquents. La réponse, c'est que les jugements du peuple ne sont pas encore éclairés. C'est pourquoi le travail de la philosophie et des philosophes doit, par l'éducation et la publication, permettre à chacun d'accéder au raisonnement, c'est-à-dire doit permettre de transformer cette multitude en un public. Et c'est, là encore, un processus qui s'inscrit dans une histoire et qui ne pourra s'accomplir qu'au bout d'un très long temps, selon l'article justement « Multitude » de l'encyclopédie. C'est un processus de très longue durée, qui là aussi, au fond, est une sorte de processus de civilisation intérieure, hein, qui consiste à diffuser les lumières et la civilisation auprès du peuple. Au fond, c'est même ce qui distingue la conversion religieuse, qui est censée se produire immédiatement sous la forme de la révélation, et le progrès des Lumières ou de la civilisation qui s'inscrit dans la longue durée. Et c'est d'ailleurs ainsi que beaucoup d'héritiers des Lumières, sous la Révolution, expliqueront la terreur, non pas comme une conséquence funeste des Lumières elles-mêmes, et c'est ça qui les différencie des contre-révolutionnaires, mais comme une accélération incontrôlée de l'histoire. Au fond, on est allé trop vite. La Révolution, et notamment la Terreur, est le résultat d'une tentative déraisonnable de fonder une société éclairée dans un pays où la majorité de la population ne savait pas lire. Et donc, avec un décalage de temporalité par rapport au temps long de la civilisation. Pierre-Louis Roederer, par exemple, dira en ces termes sous le Directoire, « La propagation des Lumières n'a rien d'impossible, mais il ne faut pas la confondre avec l'illumination subite de toutes les têtes. L'universel doit attendre. » Deux mots de conclusion. Nous sommes partis tout à l'heure de la place de la Chine dans les projets de paix perpétuelle et nous aboutissons aux politiques d'éducation à l'échelle nationale. Ce que je voulais vous montrer, c'est justement qu'une même logique, est à l'œuvre à l'échelle globale comme à l'échelle nationale. L'histoire de la civilisation est pensée comme un ensemble cohérent. C'est ce qui fait la force de ce modèle historique. Elle est décrite sous la forme d'un raffinement des mœurs, d'un progrès des échanges et du commerce, mais aussi d'une propagation des lumières, un élargissement progressif des connaissances qui assure aux individus une autonomie intellectuelle et leur permet de raisonner et de sentir par eux-mêmes, donc de s'affranchir des particularismes et des préjugés pour accéder à l'universel de la raison. Cet universel n'est pas donné, il est le résultat d'un processus historique, social et culturel à plusieurs échelles. Alors bien sûr, ce schème de la civilisation n'est pas le seul langage, il n'était pas le seul langage historique au XVIIIe siècle. Il a joué un rôle essentiel, notamment en France, pour articuler une conception universaliste de l'histoire avec une vision eurocentrée et même franco-centrée parfois du progrès. Il est concurrencé par d'autres discours, d'autres conceptions de l'histoire universelle, moins dominants mais qu'il ne faut pas de négliger. Par exemple, il existe un courant conservateur et anti-universaliste qu'on trouve par exemple chez l'historien allemand Christoph Meiners, qui, en réaction à ce qu'il appelait les fausses lumières, estime que les Européens sont les seuls capables de connaître la civilisation et que celle-ci implique un monopole du savoir au sein des élites. De même, d'autres auteurs vont, contre le modèle français de la civilisation, vont développer l'idée d'une irréductible pluralité des cultures nationales. C'est le cas notamment de Herder dans son autre histoire de la philosophie, publié en 1774. Mais il existe aussi, et je termine par cela, il existe aussi un autre mouvement moins connu, mais important, un mouvement intellectuel intéressé par les sciences occultes et les sagesses orientales qui propose une alternative au récit du progrès, un mouvement dans lequel, à nouveau, la Chine apparaît comme une ressource, comme l'a montré Alexander Statman dans un livre publié il y a quelques mois, Global Enlightenment, Western Progress and Chinese Science. Il ne s'agit plus, cette fois, de la Chine confucéenne comme ressource, cette Chine chère à Voltaire, mais de la philosophie taoïste et des savoirs ésotériques décrits et commentés par les missionnaires jésuites restés en Chine après la suppression de la compagnie en 1773. La réception de leurs écrits en France dans les années 1780 a alimenté de nouveaux courants de pensée à la recherche de savoirs universels anciens, n'hésitant pas à rapprocher le principe du yin et du yang, ou même les gestes traditionnels du kung-fu, de la théorie du magnétisme animal développée au même moment par le médecin autrichien Mesmer. Ce qui était en jeu, c'était la découverte d'une sagesse antique et universelle permettant d'accéder à de nouvelles connaissances et de percer les secrets de la nature. Alors ce sont bien sûr des courants d'idées dont nous aurons à reparler, même s'ils se situent en quelque sorte aux frontières des Lumières, là où celles-ci s'hybrident avec d'autres formes d'universalité, ancrées moins dans l'autonomie de la raison que dans la magie, la spiritualité et les savoirs ésotériques. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur un langage universaliste plus radical encore, mais cette fois pleinement inscrit au cœur des Lumières, un universalisme critique, hostile à la charge hégémonique du grand récit européen de la civilisation, au point d'appeler parfois à la révolte et même à la violence. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.